Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.
Alors bienvenue dans les portes de la connaissance, on est un petit peu en retard aujourd'hui, j'ai 7 minutes de retard, on fonçait sur la route. Et oui, il ne faut pas foncer, il faut respecter les limitations de vitesse, mais c'est vrai qu'on était bien obligé d'aller un peu plus vite parce qu'on ne serait pas arrivé à l'heure. Et puis aujourd'hui, c'est votre émission, l'émission que vous attendez depuis la dernière fois. Vous aviez Evelyne Padrino qui était avec nous la dernière fois dans l'émission Les Portes de la Connaissance, mais la connaissance du patrimoine, puisque vous attendez tous cette émission, les connaissances du patrimoine. Et je sais qu'il y en a qui sont à l'écoute. Les gens des Padipatis, sur les Padipatis, sont à l'écoute. Alors vous allez entendre aujourd'hui Evelyne qui va vous faire une très belle émission, justement sur le patrimoine aquitain, sur tout ce qui est mégalithique, puisque la dernière fois on avait parlé des mégalithes et des anciennes civilisations sur le domaine aquitain et le domaine du Girondin, bien sûr, puisqu'on est en Aquitaine. Et aujourd'hui, c'est la suite. Alors, bonjour Evelyne.
Bonjour Patrice, bonjour à toute l'équipe de Radio 2 et puis à nos auditeurs fidèles, à nos amis auditeurs. Aujourd'hui, je vous propose de repartir sur les pas et les traces de nos anciens en notre belle région d'Aquitaine et surtout en Gironde. Nous allons arpenter des sites que vous connaissez, mais que vous allez peut-être découvrir sous un autre regard, c'est-à-dire le mégalithe de Perfite ou Petrafixa. Et puis nous irons ensuite découvrir la mystérieuse pierre de Picampo à Lussac. Et après, nous verrons. Si nous avons un peu de temps, nous finirons par les mégalithes de Peyro de Villeneuve-d'Ornon. Sinon, ça fera l'objet d'une nouvelle, une prochaine émission avec également les mégalithes dans le monde. Nous allons démarrer donc par le mégalithe de Perfite ou Petrafixa qui se trouve à Saint-Sulpice de Falérens, tout près de Saint-Émilion. Il mesure à peu près 5,20 m de haut, sur 3 m de large et sur 1,50 m d'épaisseur. Probablement bien plus haut si l'on tient compte de l'érosion du temps et des intempéries. Il présente un trou à offrande sur son versant avec une orientation très particulière. Ce mégalithe n'a pas une orientation très franche comme nous en avons l'habitude avec nord, sud, est, ouest. Ici, ce mégalithe est orienté sur les intermédiaires, c'est-à-dire sur l'est-sud, le nord-est, tous les intermédiaires, ce qui pose bien des questionnements. Et sur ces quatre directions particulières qui évoquent bien sûr les quatre éléments associés et les huit éléments sacrés, c'est-à-dire voire les neuf éléments sacrés des anciens, des Celtes, c'est-à-dire les quatre directions, les quatre éléments et bien sûr tout ce qui était éthérique au centre. Donc sa forme présente une forme très particulière. Elle suggère la forme d'une main selon comment on se situe, comment on prend les photos. Ou j'ai suggéré aussi la forme d'une spatule de forceps puisque bien sûr ces lieux-là étaient fréquemment en relation avec la fécondité, avec le féminin sacré. Donc bon, pourquoi pas effectivement une forme aussi de main mais de spatule de forceps puisqu'il fallait bien certaines aider nos anciens, les femmes qui accouchaient lors de ces temps anciens et qui certainement, comme nous aujourd'hui, présentaient des difficultés à l'accouchement où elles avaient besoin de petites aides par d'autres femmes qui étaient spécialisées et qui les suivaient pendant leur grossesse parce que tout ça, ça existait. Il y avait des sages femmes du passé, bien sûr, qui les suivaient. Et des druidesses qui suivaient tout cela avec beaucoup d'attention. Et pourquoi pas, effectivement, un outil afin d'aider à la naissance. Alors, là, ça ne tient qu'à moi, mais c'est vrai que c'est intéressant aussi de le remarquer sous cet œil-là. Donc, il y a ce trou à offrande qui se trouve sur un des versants et qui se trouve en fait sur la porte de ce mégalithe. C'est une porte énergétique qui ouvre vers les conceptions de nos anciens. Et ce trou à offrande, aujourd'hui encore, est connu. Et quand on va sur ce lieu-là, on est ému de voir que des personnes sont passées par là et y ont déposé la photo d'un bébé à qui on confie la guérison à ce lieu magique et à ce lieu sacré pour les anciens, mais qui aujourd'hui encore présente un intérêt, ou bien des petites fleurs qui sont déposées à l'intérieur, ou des petits objets, tout ça pour remercier le lieu ou pour confier quelque chose, une intention. Ce menhir est situé sur la route des sources. La plupart de ces grands menhirs sont également situés sur la route de sources. Des sources particulières qui sont en relation avec des propriétés riches en minéraux, mais aussi elles ont des vertus spécifiques accordées par les racines des plantes sauvages thérapeutiques qui se trouvent autour de ces sources. Elles peuvent ainsi apporter des aides anti-inflammatoires, guérir la plupart du temps les dits guérisseuses des yeux, de la vue. C'est pour ça que fréquemment, ces sources-là sont nommées Sainte-Claire, Saint-Claire. Elles sont en relation avec la vue, les yeux. Donc, ça suggère qu'on y fait des bains d'œil. On peut également y prendre des compresses et se les apposer sur les yeux pour gagner quelques possibilités d'y voir un petit peu plus, ou bien pour soulager, apaiser des douleurs, des infections des yeux. Et c'est également des eaux qui sont propices à soigner les rhumatismes. Eh bien oui, puisqu'elles ont des propriétés certaines, hein, pas toutes, mais certaines ont des propriétés anti-inflammatoires. Et donc d'en boire, eh bien les anciens se soignaient avec les eaux sacrées aussi pour les vertus et les propriétés qu'elles pouvaient avoir. Donc on la trouve effectivement sur la propriété du château de Saint-Martial qui se trouve dans la toute proximité de ce magnifique mégalithe de Perfite et dont la source donne à proximité de la rivière, juste à peu près sur le fond du château, à l'arrière du château et face à la rivière. Elle est assez compliquée à découvrir, d'ailleurs on avait mis du temps lors d'une de nos précédentes sorties, mais elle est toujours active, elle se trouve toujours là pour aider les pèlerins qui sont de passage ou pour permettre aux gens qui sont sensibles à ça de recueillir de l'eau pour se soigner les yeux ou autre. Voilà, donc ce château Saint-Martial, qui est magnifique, a été construit au XVIe siècle sur l'ancienne chapelle Saint-Martial. C'est pourquoi l'évêque donc Saint-Martial de Limoges, du IIIe siècle, fut envoyé évangéliser le sud de la France. Il suivit ce cheminement particulier en passant par la route des sources, on nous dit. Pourquoi passer par la... Ah non, pardon. Il suivait ce cheminement pour passer par la route des mégalithes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi ils suivaient la route des mégalithes. C'est parce qu'en fait, ils étaient tout simplement reliés à des sources et qu'ainsi, c'était simple pour eux de pouvoir se ravitailler en eau et de pouvoir, même s'ils n'avaient pas parfois grand-chose à manger, puisque les évêques qui cheminaient ou les grands ecclésiastiques ou les grands religieux partaient très humblement et n'obtenaient que ce que les passants ou les personnes qui les accueillaient sur leur chemin leur offraient. Ça pouvait être un morceau de pain, ça pouvait être du fromage ou ça pouvait être des fois pas grand-chose. Et donc du coup, eh bien, ils étaient ravis de pouvoir trouver au moins une source et quelques plantes comestibles autour pour se faire dans leur petit bol d'olivier une tisane ou quelque chose pour les nourrir. Donc, on se trouve face à la Dordogne, sur ce château Saint-Martial, un des 7 affluents de la source dite de Vérité Merveilleuse, qui démarre sur les grottes de Ferrand. Oui, effectivement, la source primordiale, originelle, de la source miraculeuse, dite miraculeuse par les anciens sur Saint-Émilion, démarre sur les grottes de Ferrand, où nous avons la source mère. De cette source mère va partir sept rivières, sept sources affluents qui vont descendre, dont une qui va venir alimenter celle de Saint-Sulpice de Falérens. Les pèlerins, bien sûr, suivaient également cette voie pour pouvoir être sûrs de se ravitailler en eau. Et il fut découvert aussi une tombe mérovingienne au pied de ce mégalithe, un ossuaire préhistorique, un sanctuaire druidique et un village de tailleurs de pierre à proximité. Il y a un mystère aussi qui auréole ce mégalithe magnifique, un mystère qui demeure. Il aurait été possible qu'un déplacement de ce mégalithe au Moyen Âge aurait pu être fait. Donc, un jour, un propriétaire terrien est arrivé à la mairie de Saint-Sulpice et Falérens avec des documents très anciens qui stipulaient qu'au Moyen Âge, il aurait été déplacé afin de commémorer la victoire contre les Anglais lors de la fin de la guerre de 100 ans. D'où son nom de pierre de fuite également, est placé justement au bord de cette route qui était une route de passage très importante. On n'a jamais su réellement si c'était possible parce que à cette époque-là, déplacer un mégalithe de plusieurs tonnes aurait nécessité bien sûr quelque chose d'extraordinaire pour l'époque. Mais pourquoi pas? Parce que c'est vrai que son orientation sur les intermédiaires est assez curieuse. Et on peut se poser la question parce qu'en général, on trouve des monuments qui sont toujours situés soit nord-est, soit sud-est, mais ils sont nord-est, sud-est et non pas nord, enfin sur les intermédiaires. Donc c'est assez particulier. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question. Il a été mentionné sur un document du Moyen-Âge comme étant situé devant une source, près de l'entrée d'un souterrain où serait caché un trésor, un veau d'or. Un veau d'or, bien sûr, de manière symbolique, ce qui voulait dire quelque chose de très important. Et nous avons la source donc originelle qui démarre sur les grottes de Ferrand. Comme je vous l'ai dit, c'est un lieu exceptionnel de notre patrimoine à visiter avec quelqu'un qui saura vous le décrypter. Parce qu'il y a des choses dans ce site qui ont été considérés par de grands historiens et dont également par Michel Audouin, qui a cité « Ferrand n'a pas une histoire, mais des histoires. L'invisible aux yeux y est plus présent qu'il n'y paraît. C'est un lieu de connaissance et de savoir. Chaque pierre et chaque mur valent plus que des livres. » C'est pour vous dire à quel point nous avons ici, en Gironde, un patrimoine que je trouve merveilleux, exceptionnel, et dont on ne connaît pas suffisamment l'étendue et la magnificence. Donc, pourquoi pas, en admettant qu'on l'aurait déplacé, il suffirait d'imaginer que, pourquoi pas, ce mégalithe aurait pu se situer à l'entrée, justement, de ces grottes de Ferrand, où l'on trouve une source donc qui était dite de vérité merveilleuse, miraculeuse, et puis le trésor caché serait les connaissances que les anciens nous ont laissées cryptées dans ce lieu merveilleux. Après ça, c'est juste une théorie et une réflexion que je vous pose qui n'engage que moi, mais j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose d'interpellant. C'est en découvrant ce menhir qu'Émilion aussi sut qu'il devait s'installer en ces grottes de Saint-Émilion, proche de ce mégalithe, et qui lui rappela sa Bretagne natale, car il fut originaire de Vannes. Un culte au menhir fut très important au haut Moyen-Âge lors du néo-druidisme qui ressurgit, et des processions, des rites, des vœux dans les trous à offrandes y furent fréquents. Sa réputation ainsi que celle de la source associée étaient connues dans toute la région et de celles environnantes. Ces mégalithes, érigés sur des croisements de cours d'eau, des croisements d'énergie tellurique, qui font, pour les géobiologues, une métamachine énergétique particulière en fonction des polarités de la Terre, posent aussi à nouveau un questionnement, une probabilité. L'énergie rayonnée par cette pierre levée forme des cercles concentriques d'une triple enceinte, un vortex puissant dont les réseaux Hartmann, Curie, or et argent créent ces tourbillons ou cheminées cosmotelluriques dont les quatre faces incurvées sont une invitation à s'y placer afin de s'y nettoyer, purifier, recharger et pourquoi pas se soigner. Un lieu d'exception où chaque année, lors du solstice d'été, du printemps, l'association solstice d'été ou l'équinoxe du printemps, l'association commémore ses anciens rites autour d'un feu d'artifice en une nuit magique. Il y a sur la commune donc de Saint-Sulpice de Falérens une association, l'association des amis du mégalithe, qui recrée chaque année une très belle fête avec plein d'activités, plein de découvertes, et puis aussi le soir il recrée un grand feu comme un feu rituel des anciens où chacun vient danser, s'amuser, etc. Mais aussi quelquefois nous aussi, notre association peut organiser des fêtes commémoratives druidiques, celtiques, mais aussi, surtout, une commémoration de nos anciens, de savoir qu'est-ce qu'ils faisaient sur ces lieux, comment ils concevaient, d'après le peu de récits que nous avons ou de témoignages des anciens philosophes et scientifiques grecs, par exemple, ou romains, qui nous ont laissé quand même des indications, car il faut savoir que les druides, les celtes, ne laissaient pas d'écrits. Tout était dans la connaissance, le partage oral de génération en génération. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de nous mettre dans leur peau, dans leur tête, derrière leurs yeux, pour vraiment concevoir quels étaient les effets, les fonctions et tout ce que généraient ces magnifiques mégalithes. Mais petit à petit, en allant sur les lieux, on commence à s'ouvrir, à comprendre certaines choses petit à petit, qui seront intéressantes à redécouvrir avec nous si l'on fait des sorties. Et puis ainsi, chacun partage également ses connaissances, ses savoirs et ses domaines. Ça peut être un géobiologue qui est parmi nous et qui nous explique son domaine. Ça peut être une personne férue d'histoire qui a des éléments que nous n'avons pas. Et là, on commence à comprendre et à découvrir ces lieux d'une autre manière. Voilà pour ce qu'il en est de ce mégalithe de Perfite. Nous allons partir maintenant vers un autre lieu. C'est la pierre de Picampeau sur la commune de Lussac. Voilà, sur la commune de Lussac. Donc Lussac, je vous permets de réfléchir sur le nom de Lussac. Qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Alors, juste une petite chose, Evelyne. On va faire une petite coupure musicale. Et puis on va revenir tout de suite après. C'est vrai qu'elle est très bavarde, Evelyne. On peut pas l'empêcher de parler. On n'y arrive pas. On sait pas comment faire, mais elle parle. Et quand elle est emballée dans le patrimoine, elle vous transporte jusqu'au bout du ciel. C'est formidable. Donc on va faire une petite pause musicale et on revient tout de suite après avec la suite. Et je pense qu'elle va vous emmener vers un grand voyage. Je pense vraiment. Thank you. Alors, on est de retour sur les ondes d'O2 Radio dans les portes de la connaissance. Et aujourd'hui, c'est votre émission, l'émission que vous attendez tous avec Evelyne Padrino. De la culture à, justement, on est transporté de la culture vers la connaissance du patrimoine. Et on arrive au deuxième volet de la... On va parler de Picampo, c'est ça ?
Oui, c'est
hein,
ça.
Voilà, on va parler de Picampo, on a parlé du patrimoine, et on l'a rejoint, et elle va vous faire voyager, mais alors, ça va être extraordinaire. Surtout, ne vous endormez pas sous le son de sa voix, surtout ne vous endormez pas, c'est une petite femme extraordinaire. Voilà, on fait un grand voyage avec elle. Hein. Voilà, alors Evelyne, on part en grand voyage.
Parfait, merci Patrice. Après cette entracte pleine d'entrain, de joie, repartons sur le site magique de la pierre de Picampo de Lussac. Pendant ce temps, avez-vous réfléchi sur le nom de Lussac ? Qu'est-ce que ça peut évoquer ? Qu'est-ce que ça peut cacher derrière le nom de Lussac ? Eh bien, j'ai réfléchi à plusieurs possibilités. Donc, dans Lussac, on a Luce. Luce qui venait en latin, qui signifiait la lumière. Mais aussi, ça peut aussi évoquer Lug, le dieu celte. Mais aussi, ça peut évoquer aussi le sac de lumière, parce que Lussac. Et dans le sac de lumière, on a un contenant des connaissances. Vous verrez pourquoi après. Mais on nous dit, donc, lorsqu'on fait des recherches sur ce site, que Lussac vient aussi du nom d'un riche propriétaire de villa romaine, Lucius, et Picampo, dont le nom signifierait en celte « lieu du bois sacré ». Nommée pierre à bassin pour ses cupules de forme carrée et circulaire, sa coupe centrale en triangle pointe en bas, très particulière, suggère bien sûr un rapport avec la déesse mère, le féminin sacré, symbole pubien par excellence, et bien sûr la fertilité pour nos anciens qui était extrêmement importante. Il y avait également des sillons qui suggèrent bien sûr le culte des eaux évident en ce site. Une pierre calcaire dure détachée du plateau rocheux de Picampo il y a des milliers d'années et qui a été exploitée par les anciens afin d'y venir lors des cérémonies religieuses, des solstices, des équinoxes, etc. Une pierre datée du néolithique, réemployée à l'époque druidique, gauloise, romaine et qui mesure 6 mètres sur 4. 6 plus 4 donne 10, le nombre divin sacré pour les anciens. C'est peut-être quelque chose aussi qui les a interpellés à savoir. En tout cas, pourquoi cette pierre a été choisie pour être un lieu sacré ? Il y a son orientation, très certainement, aussi la position des astres, puisqu'il ne faut pas oublier de manière importante que un lieu était choisi par son orientation, mais aussi par sa forme suggestive, mais aussi par rapport aux astres qui pointaient aux constellations sacrées, et bien d'autres choses également. Donc nous revenons à notre pierre sur le haut du plateau supérieur de cette forêt. Quand vous arrivez sur cette forêt, vous êtes déjà interpellé parce qu'il y a de nombreux arbres jumeaux partout. Partout, ça peut arriver qu'on ait des arbres qui poussent par deux. Ça arrive, mais là, sur ce lieu-là, il n'y a pratiquement que des arbres par deux. C'est déjà assez interpellant. Et sur cette forêt, donc, il y a un palier supérieur et après on descend pour trouver la pierre qui, elle, est à flanc de coteau. Mais sur ce palier supérieur, donc en remontant, près de la pierre sculptée, se trouvait probablement un centre religieux et scientifique où les villageois venaient consulter les druides. Un némétone, car si vous voulez, on y retrouve des formes comme s'il y avait eu des bâtiments à ce lieu-là. C'est assez particulier. Donc c'était certainement une sorte d'agora excentrée des villages où l'on consultait les médecins, les juges, architectes, mathématiciens, géomètres, arithmétiques, dans l'arithmétique, l'astronomie, des centres religieux, d'initiation multiple également, puisqu'il fallait initier les nouveaux druides. Et pour être druide, sachez qu'il fallait 20 ans d'initiation pour pouvoir prétendre être druide. Donc, et également apprendre des instruments de musique sacrée, la formation des bardes, des ovates et tout ce qui pouvait justement suivre ces temps anciens. Des tessons de vases rituels et religieux de l'époque druidique et gauloise ont été mis à jour à proximité. Un village à environ 1 km a été découvert. Parce qu'il faut savoir que les villages étaient très proches, mais excentrés de cette zone sacrée. On ne retrouve jamais un village à côté d'un lieu sacré. C'est comme si nous avons nos villages autour des églises. D'ailleurs, l'église est le point central en principe des villages. Mais à cette époque-là, tout ce qui était sacré avait son importance et était dans un lieu particulier choisi par les anciens et les villages un peu plus loin. C'était complètement différent. Donc, excentré dans cette zone sacrée où on pouvait consulter les scientifiques, les religieux et tout ce qui pouvait avoir une importance à cette époque-là. Cette pierre, pour moi, pourrait être une sorte d'autel voué à une ou plusieurs divinités en cette forêt de chênes sacrés où l'énergie puissante du lieu a permis, attention c'est extraordinaire de voir ça, a permis au minéral de se conjuguer au végétal. Et c'est par les troncs d'arbres, de chênes qui se sont ventousés carrément dans la pierre. Il faut le voir parce que il y a peu de lieux comme ça, il y en a quelques-uns. Il y en a aussi sur les mégalithes de Perreault à Villeneuve-d'Ornon, on en reparlera si on n'a pas le temps aujourd'hui, où on retrouve cette particularité. Tellement ces pierres sont particulières, elles possèdent certainement des énergies très très puissantes qui attirent les végétaux qui poussent à proximité et dont les troncs d'arbres se ventousent carrément à la pierre et ne forment plus que... C'est parfois difficile de voir où s'arrête le minéral et où commence le végétal. C'est extraordinaire. Marcel Baudouin, archéologue, anthropologue du 19e siècle, a également conclu à un culte des eaux sacrées par rapport à toutes les cupules et la coupe centrale où on voit bien que les eaux de pluie, les eaux sacrées qui veulent émanés du royaume des cieux, du royaume des divinités, venaient couler sur cette pierre et écouler le long de la pierre. L'eau a toujours fasciné les hommes par son effet miroir, reflétant les cieux et l'image de celui ou de celle qui s'y mire. Porte des mémoires, bien sûr, l'eau porte des mémoires de la création, de l'histoire, des portes dimensionnelles vers des lieux spirituels, allant vers les portes des divinités, des défunts, vers le futur, le présent ou le passé. Cet élément livrant, bien sûr, pour nos anciens, des divinations par l'hydromancie. L'hydromancie était une technique employée par les anciens qui prenaient des sortes de chaudrons et qui y mettaient des eaux de sources sacrées pour eux. Et ces chaudrons, ils y plongeaient donc nous voilà bien. Ils y plongeaient donc des pierres de cristal de roche pour pouvoir avoir les réponses à leurs questionnements, à toutes leurs questions. Donc, lorsque le cristal était plongé dans l'eau et qu'il ressortait, il posait une question, un questionnement particulier, et là, le cristal leur délivrait. Ils avaient les techniques bien plus que nous les retrouvons aujourd'hui. C'est beaucoup plus compliqué pour nous de tout retrouver aujourd'hui, mais eux avaient ces techniques-là et pouvaient prévoir, prédire et poser des oracles. C'était quelque chose d'extraordinaire. Les eaux, bien sûr, étaient purificatrices, elles nettoyaient par des ablutions. L'eau est, bien sûr, source de vie et de renaissance. L'eau combat le feu aussi, donc en alchimie aussi. Il y a tout ce qui est le côté alchimique et le côté théurgique de l'eau. Et les anciens du temps des druides fabriquaient de l'eau lustrale consacrée. C'était une eau très particulière. Cette eau était créée lors des cérémonies et des grandes messes rituelles en plaçant un tisonnier ou une épée rougie dans les braises des grands feux sacrés ou bien de ces feux qui étaient élaborés dans des chaudrons, des gros chaudrons de cuivre, avec sculptés dessus des symboles astronomiques, des divinités, des symboles sacrés. Et là, les feux, bien sûr, crépitaient, et ils y plantaient cette épée rougie, et ensuite, ils plantaient l'épée dans d'autres chaudrons d'eau, qui, eux, explosaient par l'effet de réaction de la chaleur, et pour eux, l'eau, à ce moment-là, était devenue une eau sacrée, miraculeuse, bonne pour faire des bénédictions et toutes sortes de rituels particuliers. Plusieurs offices étaient célébrés au lever du soleil à midi et au couchant afin de célébrer sa course. Mais bien sûr, la nuit également, des cérémonies, des danses, des chants, des histoires narrées par les bardes accompagnaient sa victoire, et la victoire, bien sûr, de la pleine lune, de l'astre d'argent, qui déterminait les dates, d'ailleurs, choisies pour ces fêtes particulières. Donc les jours et les nuits étaient très occupés, et pendant 2 ou 3 jours, c'était de grandes festivités. On en profitait pour célébrer les mariages, les fiançailles. Les jeunes couples offraient des couronnes de fleurs au lieu sacré, sautaient au-dessus des feux pour obtenir le bonheur et la prospérité, ou l'amour avec son prochain, et puis des renouvellements de vœux aussi, puisque chez les druides, on se mariait, mais tous les ans, on pouvait renouveler nos vœux quand on était heureux, et pouvoir ainsi demander aux divinités de bénir ces unions-là. Voilà. Donc, ils renouvelaient leurs vœux également. Les druides savaient lire des prophéties par les figurations des fumées de ces feux de lumière. Ça, c'est extraordinaire. Par les formes que prenaient les feux, les fumées des feux, eh bien, eux savaient dire ce qui allait se passer, quels allaient être les événements de l'année, si l'année allait être prospère, si les cultures allaient être prospères, si les semailles allaient être abondantes. Enfin, voilà. Donc, ils avaient des connaissances que nous avons bien évidemment oubliés dans les strates du temps. Ils y exposaient aussi le bétail pour les protéger des maladies tout au long de l'année par ces fumées, par ces feux qui étaient censés justement nettoyer, libérer et purifier le bétail. Bien sûr, en contrebas supérieur de ce plateau se trouvent des sortes de niches qui sont très curieuses. On a découvert ce site-là. Donc, vous avez sur le palier supérieur, hein, donc cette zone qui serait, pour moi, je pense, une zone où on pouvait venir consulter donc les druides, les scientifiques, les médecins, etc. Cette espèce de némétone agora. Mais juste légèrement en dessous, il y a une autre zone, un flanc de coteau, où l'on y découvre. C'est très curieux, des petites sortes de niches ouvertes aujourd'hui et apparentes, comme des petites entrées de sépulture à flanc de palier. Il faut savoir que ce ne serait pas étonnant, parce que nos anciens désiraient reposer pour l'éternité très près de ces sites alors sacrés pour eux. C'était vraiment comme si nous pouvions nous faire enterrer au plus près de la grotte de Lourdes ou de lieux extrêmement sacrés comme ceci. Donc pour eux, c'était des lieux exceptionnels où la paix et la sérénité pouvaient régner, et puis les divinités qui étaient là pour les protéger dans ce voyage vers l'autre rive, mais aussi pour l'éternité. C'est un site exceptionnel où la paix, la sérénité, la mémoire est encore palpable et nous ouvre le portail sur l'histoire passée de notre civilisation et de nos origines oubliées dans la brume du sablier du temps. C'est vraiment extraordinaire de voir ce lieu-là. Ce serait intéressant que nous repartions sur les traces de ce lieu lors d'une visite l'année prochaine pour vraiment que l'on puisse le partager tous ensemble et que vous découvriez votre patrimoine oublié d'une autre manière, parce que vraiment, ce sont des lieux qui sont... Il n'y a pas de qualificatif. Il faut le voir, il faut le découvrir et vraiment s'imprégner de l'histoire de nos origines.
Alors, Evelyne, on a fait un beau voyage avec Picampo, avec ce que tu viens de nous dire. Qu'est-ce qu'on peut... Parce qu'il nous reste 10 minutes d'émission, donc... pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on peut dire de plus ? Parce que c'est vrai qu'en Aquitaine, on a remarqué qu'il y avait un patrimoine intéressant. il y avait un patrimoine mégalithique, un patrimoine... On parlera des châteaux bientôt avec Evelyne, on ira faire des voyages dans les châteaux, on ira faire ce beau voyage ensemble avec Evelyne. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour finaliser, pour refermer cette page de cette émission? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus?
Eh bien, on peut dire que notre région est une région extrêmement riche et que partout en France, nous retrouvons des sites merveilleux, exceptionnels. Il n'y a pas que la Bretagne, partout nous pouvons arpenter et découvrir des traces de notre passé, de ces peuples qui ont migré lors de périodes difficiles, probablement des changements climatiques qui les ont obligés à partir et à arpenter d'autres régions et à s'y installer sur des régions où les terres étaient fertiles et où il y avait de l'eau en abondance et où ils ont pu partir, s'installer du moins pour un certain temps jusqu'à après remigrer, etc. Et ça fera l'objet aussi d'une autre émission. Je ne vais pas tout dévoiler là-dessus aujourd'hui.
Est-ce qu'on fera un beau voyage avec les chevaliers des Templiers, par exemple?
Oui.
Est-ce qu'on en parlera? Parce que je crois que c'est une période de l'histoire qui est très intéressante, que d'ailleurs Evelyne vous fera voyager avec eux parce qu'elle connaît très bien ce sujet. Et il y a beaucoup de choses à dire, des choses qui sont fausses, et qui ont induit en erreur les gens, des choses qui sont à remettre dans le cadre, je dirais, de la vérité. Et en parlant des chevaliers des Templiers, on parle d'une période de l'histoire qui a été extraordinaire pour la quête du Graal et pour la quête de la recherche de ce que les Templiers ont fait. Donc on en parlera, Evelyne vous en parlera. On ira faire des voyages magnifiques dans des châteaux à des temps anciens. Et je crois que cette émission, pour ceux qui aiment l'émission Culture et Connaissance du Patrimoine, puisque c'est le titre de cette émission, sous les portes de la connaissance, je pense que ce sera pour vous l'occasion de rejoindre Evelyne une fois par mois, parce qu'elle viendra une fois par mois faire son émission. Donc tous ceux qui s'intéressent au patrimoine, tous ceux qui s'intéressent aux civilisations anciennes, pourront faire un très beau voyage avec Evelyne chaque mois. Donc voilà, donc on va finaliser. Qu'est-ce qu'Evelyne a besoin de nous dire encore?
Alors, effectivement, les Templiers sont d'ailleurs très, très liés au site mégalithique, mais ça, je ne dis rien aujourd'hui, je vous le dévoilerai petit à petit. Par contre, je voudrais terminer avec un petit rappel. Nous vous attendons tous sur le Symposium des sciences le 14 et le 15 octobre, sur le cinéma L'Entrepôt du Haillan, où nos deux associations, celle de Patrice et la mienne sur l'hépatipathie, avons organisé pour vous une rencontre auprès d'éminents scientifiques connus mondialement et qui vont tout au long du vendredi dans la soirée et tout le samedi, toute la journée, vous proposer des conférences sur des domaines tels que l'astronomie, la cosmologie, la biologie, la physique du vivant avec Jeanne Ayache et qui était microscopiste pendant 40 ans au CNRS. Vous retrouverez également des astrophysiciens tels que François Forger, Franck Celsis, également Alain Blanchard, mais aussi... Monsieur Yves Plindoux qui viendra en tant que passionné mais aussi en tant que candidat au vol suborbitaux de Virgin Galactique, eh bien oui, et représentera par sa conférence Virgin Galactique qui est donc la société d'astronautique donc privée et qui fait un petit peu... qui est opposé à la NASA. C'est pour vous dire à quel point ce sera riche. Il y aura un film documentaire aussi en présence du réalisateur le vendredi soir. Enfin voilà, découvrez tout le programme sur l'hépatipathie.fr. Il y aura la restauration sur place, par contre sur réservation auprès de la cuisine nomade. Tout est sur notre site internet, la billetterie, des tarifs réduits pour que la science soit vraiment pour tous et qu'il n'y ait pas de soucis pour pouvoir y prendre part. Voilà. Découvrez tout ça, nous attendons nombreux, ce sera un moment merveilleux de partager sur grand écran des vidéos, des films, de riches partages vidéo de nos étoiles, de notre univers, de notre système solaire et avec toutes les avancées qui ne cessent de progresser puisqu'aujourd'hui nous avons le télescope spatial James Webb qui apporte des informations aux scientifiques sans discontinuer et qui remet en question toute la science telle que nous la concevons. Donc vous aurez les dernières données scientifiques sur grand écran avec les images du James Webb. Ça va être quelque chose de phénoménal. Nous vous attendons nombreux. Retenez bien sur vos agendas le 14 et le 15 octobre sur le cinéma L'Entrepôt du Haillan. Donc pour un grand week-end des étoiles et autour de notre univers et de ces mystères.
Alors, on sort du cadre de l'émission d'Evelyne un petit peu, oui, effectivement, pour parler de cet événement exceptionnel. Alors, tous les auditeurs qui sont des portes de la connaissance, tous ceux qui s'intéressent au monde de l'univers et des étoiles, il y a effectivement un symposium que nous avons organisé, ma compagne et moi, qui s'appelle le Symposium des sciences 2022, à la salle du cinéma du Haillan. Vous pouvez aller voir effectivement sur le site internet sur lespadipati.fr pour vous renseigner, à la billetterie pour réserver votre place. Je vous garantis que c'est un événement majeur dans le domaine des étoiles sur le Bordelais. Il n'y a pas d'autres événements comme celui-là qui est programmé. Chaque année, il y en aura certainement probablement un dans différents domaines de la science. Cette année, c'est le domaine des étoiles. Il y aura effectivement de grands scientifiques, des cosmologistes, des astrophysiciens. Il y aura de la planétologie, de l'étude des exoplanètes, du Big Bang. Alors, on partira du Big Bang, la création de l'univers avec Alain Blanchard, pour aller ensuite faire un voyage vers le système solaire avec la planète Mars et la recherche de la vie dans le système solaire avec François Forget, pour ensuite continuer avec Monsieur Celsis sur la recherche des exoplanètes et de la vie possible et de l'atmosphère des exoplanètes, pour ensuite aller finaliser vers un voyage magnifique vers le monde qui sera celui de l'espace, des voyages suborbitaux, c'est-à-dire d'aller à la conquête de l'espace. Donc vous avez une grande épopée spatiale d'un seul coup qui se développe. C'est du Big Bang, vous partez vers un voyage fantastique vers l'univers. Venez, je vous engage vraiment à venir à cet événement. C'est un événement extraordinaire sur Bordeaux. J'espère que vous viendrez nombreux. Chaque année, nous en ferons un. Nous ferons certainement l'année prochaine un autre événement et nous attirerons un public différent, puisqu'à chaque symposium, il y aura un sujet différent. Voilà, je vous engage à venir. Evelyne va certainement vous dire le mot de la fin avant de fermer la page de cette émission. Et je vous dis à bientôt, prochainement.
Alors, je voulais rajouter que cet événement s'adresse à tous, qu'il est extrêmement vulgarisé à la portée de tous et qu'il est gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans. D'ailleurs, ceux qui le souhaitent pourront être mis sur les places de devant. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour cette belle opportunité d'émission. Je suis ravie de vous retrouver une fois par mois autour de nos passions, autour de ces voyages de l'Antiquité et de la très 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 haute Antiquité, voire préhistoire à nos jours, pour pouvoir redécouvrir nos origines, notre patrimoine et puis les merveilles qui nous entourent encore aujourd'hui en notre région. Je vous remercie à tous, je remercie Patrice de m'avoir permis d'être auprès de vous une fois par mois et puis aussi de Radio 2 de nous permettre de vous faire passer ces beaux messages de notre passé et puis de vivre ces beaux moments tous ensemble. Merci à tous, belle journée à vous et puis au plaisir de se retrouver dans un mois maintenant, très prochainement. Merci beaucoup.
À bientôt Evelyne, à bientôt sur les ondes pour la prochaine émission, ce sera le mois prochain. Je vous signale qu'il va y avoir une émission des Portes de la Connaissance avec Jean-Pierre Luminet qui va revenir nous parler de l'univers à sa manière. Donc c'est très très intéressant parce qu'on va parler on avait parlé des trous noirs avec lui. Là, on va parler d'autre chose. On a des scientifiques qui vont revenir sur les ondes, parler des étoiles. On a tout un programme, évidemment, sur les anciennes civilisations avec Evelyne et d'autres programmes culturels sur différents domaines de la science. Donc, je vous dis à bientôt. Je vous reprends sur les ondes après cette page de musique à nouveau pour vous dire quelque chose et à tout de suite. Alors, de retour sur les ondes des portes de la connaissance. Après cette belle émission d'Evelyne Padrino, ben, juste pour vous dire que ben, dans les portes de la connaissance, sachez que c'est l'anniversaire à des portes de la connaissance. Ça fait maintenant tout juste un an que je diffuse cette émission officiellement. Et donc, j'accepte tous les cadeaux. Vous pourrez pas m'en offrir parce que vous êtes derrière votre poste radio, évidemment. Mais j'accepte effectivement tous vos remerciements et tout ce qui fait partie de ce que je ne connais pas, c'est-à-dire mon public. Malheureusement, vous êtes là derrière vos postes radio, votre ordinateur à écouter l'émission. Vous êtes fidèles. Je ne vous connais malheureusement pas, mais je suis de tout cœur avec vous et je vous remercie infiniment pour tous ceux qui écoutent cette émission, infiniment d'écouter et d'être fidèles aux portes de la connaissance. Merci, il va y avoir de très beaux moments cette année. Je vous ai réservé un programme sensationnel au niveau des scientifiques, des ufologues, des gens qui font de la science dans toutes sortes de domaines. Vraiment, vous allez être très gâtés et plus ça ira, plus vous serez gâtés. Nous aurons, je vous l'annonce déjà, la chance d'avoir sur ce plateau la sœur des frères Bogdanov, qui va venir sur ce plateau dans quelques temps et qui fera une très belle émission avec nous. Elle ne parlera pas des étoiles, bien sûr, parce qu'elle a un autre domaine de prédilection qui est ce domaine des soins, puisqu'elle fait elle s'occupe de faire des soins. Mais elle parlera de son domaine, de la santé, puisqu'elle en parlera avec vous. Elle parlera évidemment de... On a eu un problème technique, excusez-moi, il y a une coupure de micro. Sophrologie, elle parlera de sophrologie, elle nous parlera de sophrologie. Et je crois qu'elle a écrit, elle a écrit un livre sur la sophrologie, donc elle viendra nous en parler. Donc ce sera un moment sensationnel avec elle, et puis elle nous parlera certainement un petit peu, évidemment, des frères Bogdanov, de Igor et Grishka, qui sont malheureusement partis et qui nous ont quittés. Malheureusement, ils nous ont quittés. On les aimait énormément, on les aimait beaucoup. Et malheureusement, ils ne sont plus là parmi nous. Mais elle nous en parlera certainement un peu. On leur en fera un petit hommage quand elle viendra. On leur rendra hommage, bien sûr. Mais on parlera surtout de leur sœur. Elle viendra, elle parlera de sophrologie, elle parlera de santé, elle viendra de médecine naturelle. Elle vous en parlera beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, parce que moi, je n'en parle que comme ça. Et voilà, donc un très très beau programme vous attend. Donc merci encore à tous infiniment d'écouter cette émission. Merci à tous. Bon week-end. Et n'oubliez pas, le symposium des sciences, ne l'oubliez pas, le 14 et 15, en soirée au cinéma du Haillan, le 14 vendredi soir, et en journée, toute la journée, le symposium des sciences, en journée, le samedi, toute la journée, du matin jusqu'au soir, très tard, avec d'éminents scientifiques connus mondialement. Merci à tous et à bientôt.
Les portes de la connaissance. Une émission présentée par Patrice Javert. Rejoignez-nous dans un voyage jusqu'aux confins de l'univers.